rêver, pour faire rêver dans les magazines et dans les vitrines. Les femmes ont tant de frivolité, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer et faire la vaisselle, vider la poubelle. Mon temps d'habileté, d'habileté, demande à Hélène, et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour enfanter, et savent dès l'enfance que c'est dans la souffrance. Des femmes ont tant de générosité, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène, et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour travailler, et faire chacune deux journées dans une. Les femmes ont tant d'agilité, d'agilité, demande à Colette et à Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour lutter, quand c'est leur colère qui remue la terre. Les femmes aussi savent lutter, demande à Rosa et à Angela, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle.
Bonsoir, vous venez d'entendre Francesca Solville qui interprétait la composition de Claude Reva pour les paroles, Jean-Paul Roseau pour la musique, Demande aux femmes. Une chanson en rapport avec le sujet de notre émission de ce soir, puisque vous allez pouvoir entendre un travail théâtral, une création. La pièce Histoire de femmes, présentée par l'Atelier du désordre il y a depuis quelques mois, un certain nombre de fois déjà. Dans une écriture et mise en scène de Mo Martin. Ils sont avec nous ce soir dans le studio. Je dis donc bonsoir à Mo Martin, à Frédéric Cochot, à Olivier Lamoille, à Marion Poincelet, à Anne-Laure Pommier et puis à Pierre Gerger qui sera à la technique pour le son et qui est le compositeur des musiques. Nous aurons sans doute l'occasion de reparler après leur intervention, puisque ce sera pas l'intégrale du spectacle, puisqu'il faut rester dans le délai qui nous est imparti d'une heure, mais nous aurons sans doute quelques minutes à la fin de leur prestation pour débattre et commenter un petit peu tout ce qui s'est passé. Pour les gens qui n'ont pas vu ce spectacle, on dira d'un mot que c'est une pièce, un travail qui retrace toute l'histoire des femmes au XXe siècle à travers un certain nombre de sujets, un travail mené par Mo Martin à partir de documents, d'entretiens, qui a sans doute dû lui demander pas mal de travail, de temps à passer. Donc nous vous proposons à partir de maintenant d'entrer dans l'espace de création théâtrale sur Radio Canu. L'émission que nous vous proposons est en fait une rediffusion d'une émission proposée en direct ici même le 30 octobre 2006, dont vous venez d'entendre le début. Rediffusion après remontage de cette émission Bistantlac 722, réalisée en direct à l'époque. Aussi, nous nous sommes permis de remodeler le format et de vous proposer d'abord, avant l'écoute de la pièce et pour mieux l'éclairer, les propos de la fin de l'émission en direct de 2006, au moins ceux qui ont encore une actualité à ce jour. Ensuite, nous enchaînerons avec la diction de la pièce en direct alors dans nos studios. Bonne écoute. Je tiens donc à remercier Mo Martin qui est metteur en scène sur ce spectacle, mais peut-être plus, on va en parler au niveau de l'écriture, je pense. Et puis les acteurs, Frédéric Cochot, Olivier Lamoille, Marion Poincelet, Anne-Laure Pommier, et la création sonore de Pierrick Gueugère, qui était aussi avec nous dans les studios pour régler ses parties musicales. Voilà, je les remercie beaucoup parce que je pense que c'est très chouette pour Radio Canu de pouvoir offrir aux auditeurs comme ça des créations radiophoniques en direct de pièces théâtrales. Je ne sais pas comment vous le ressentez, s'il s'agit vraiment d'une pièce ou plutôt de quoi faut-il parler, Maud?
Alors, au départ, la pièce a été faite à partir de témoignages donc qui ont été collectés auprès de femmes de 4 générations différentes, donc de la plus petite, des plus jeunes, qui avaient des ados de 12-13 ans, et jusqu'à des presque centenaires. Donc on a interrogé beaucoup de femmes. Et à partir de ces témoignages, de ce qu'elles avaient à dire, de leurs souvenirs, de ce qui les avait marquées pendant le siècle, on a construit donc un spectacle. Alors moi, je revendique le fait que ce soit vraiment du théâtre, même si c'est pas si ça raconte pas une histoire de A à Z avec un nœud dramatique, mais c'est vraiment du théâtre puisque c'est vraiment porté par des comédiens. Avec un travail sur le son, la lumière, la danse, les costumes, etc. Donc vraiment, ça a été conçu pour être joué sur un plateau, mais c'était un vrai plaisir de l'entendre aussi en radio.
Oui, on peut dire tout de suite à nos auditeurs que ça ne les dispense pas d'aller voir le spectacle, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas découvertes en n'ayant que la partie sonore. Ceci dit, c'était quand même une belle performance que vous nous avez offerte là, qui devrait mettre en appétit les auditeurs pour voir ce spectacle. Il a été donné à Lyon cette année, du 23 au 30 mars, ça c'est déjà un peu ancien, donc à la salle Paul Garcin, on l'avait annoncé ici même, puis plus récemment du 3 au 8 octobre à l'Espace 44. Quelques mots aux comédiens, c'est une expérience un peu particulière que celle de donner ce spectacle à la radio, surtout que vous l'avez en tête puis en jeu pour la scène, donc c'est particulièrement éprouvant ou ça a été facile pour vous ce soir?
C'est pas évident quand on part dans le texte. On se remet à jouer, mais on est frustré parce qu'on est assis, on peut pas bouger. Et c'est assez nouveau pour nous. Je pense le dire. N'est-ce pas les collègues?
Oui.
C'est intéressant. C'est aussi intéressant. Enfin là, tout est capté sur la voix, donc c'est un peu troublant, quoi. Mais c'était bien.
L'activité radiophonique, c'est quelque chose que vous pratiquez pas par ailleurs en tant qu'acteur ou que travaille dans d'autres contextes, non? C'est un petit pas de côté pour vous ce soir.
De temps en temps, quand même, il y a plusieurs comédiens alors, qui ont travaillé pour l'émission pour Maccabée, l'émission de Radio Canu.
Côté musique, peut-être dire quelques mots de cette musique originale finalement de Pierrick Gueugère. Il peut nous dire un petit peu comment il a conçu et préparé est-ce que c'est des morceaux plaqués venus ou c'est en lisant le texte que l'inspiration est venue? Est-ce que c'est une commande pure? Est-ce qu'il y a une part de création personnelle?
Oui, c'est le metteur en scène donc Maud Martin qui a certaines demandes et puis donc c'est une création originale. À part donc les chansons qui en général sont donc de Juliette normalement qui est chantée pendant le spectacle, il y a aussi
il y a une chanson de Pierre Perret aussi là qui a été chantée par les comédiens en direct et sur l'avortement clandestin, c'est une chanson de Pierre Perret au départ.
Et
d'Henri Tachant, bien sûr, la chanson sur le font leur pipi contre les murs est une chanson d'Henri Tachant aussi.
Voilà, sinon tous les autres morceaux c'est des créations originales pour le spectacle.
Et on vous retrouve où avec votre musique? Seulement à l'Atelier du Désordre?
Non, je fais de la musique avec un groupe qui s'appelle les Deadbeat Descendants. Vous pouvez aller voir sur internet si vous voulez. www.deadbeatdescendants.com.
Ça s'écrit comment?
Alors, dead comme dead en anglais, beat comme beat en anglais, et descendant comme descendant en anglais.
Notre voix. Merci. Bon, ceci étant dit, bon, ce spectacle, c'est un petit brûlot féministe quand même, quoi. D'ailleurs, vous n'êtes pas très revanchard parce que vous avez convié deux comédiens hommes pour deux comédiens femmes, donc ça reste très convivial, quoi.
Oui, c'est un spectacle qui est engagé, hein, bien sûr, puisqu'il retrace les évolutions dans la vie des femmes au XXe et ce qu'elles ont acquis, puisqu'il reste encore à obtenir, bien sûr. Hein. C'est aussi une réflexion pour les jeunes générations, qu'on ne s'endorme pas un peu sur nos lauriers. Mais c'était pas, moi, je l'ai absolument pas vécu. Enfin, le spectacle comme une revanche des femmes sur les hommes. Et je voulais surtout pas que le spectacle retrace une sorte de guerre des sexes. Vraiment, c'était pas du tout quelque chose que je recherchais. J'ai 35 ans, donc les gens de ma génération, en fait, je pense, ont des rapports plutôt harmonieux avec la gente masculine. Enfin, les filles n'ont pas forcément de comptes à régler avec leurs conjoints, frères, pères, époux, etc. Et donc, c'était plutôt s'interroger sur comment une société peut rester misogyne et comment on retrouve une sorte de quand même de discrimination envers les femmes sans que ce soit pour autant une mise au ban de toute la gente masculine. Ça m'intéressait pas trop, et c'est pour ça aussi que je voulais qu'il y ait des comédiens dans la distribution et qu'il y ait aussi des comédiens qui portent des textes féminins.
Et l'accueil du public de ce spectacle, vous avez des réactions particulièrement agréables ou...
Alors, le spectacle a été, oui, très assez bien accueilli, aussi bien à Paul Garcin qu'à l'Espace 44. Pour toutes les générations, finalement, en définitive, les plus âgés se reconnaissent plus dans les discours féministes. Et puis, les plus jeunes aussi peuvent adhérer au spectacle, je pense, pour son côté ludique, assez léger.
Et sont contentes de redécouvrir l'histoire, en fait, et s'aperçoivent pour beaucoup que les choses, que c'est pas très vieux. Il y a beaucoup de choses quand même récentes. Excuse-moi, Maud, je complétais.
Très bien. Bien, il me reste à vous remercier très chaleureusement. D'ailleurs, si vous voulez revenir avec Cri de guerre, je suis partant. Je vais prendre date tout de suite. Bonsoir et merci à vous.
Merci, merci.
Leçon de conditionnement.
Apprentissage du modèle féminin.
Phase d'endoctrinement.
Les petites filles naissent dans les roses. Les petites filles sont douces et gentilles.
Les petites filles lèvent le doigt quand l'institutrice pose une question. Elles veulent être aimées, Elles veulent se distinguer, être la première.
Les petites filles jouent du piano. Elles chantent. Premier rendez-vous de Daniel Darieux, flotte, flotte, petit drapeau, et la dernière de Laurie.
Les petites filles lisent. La semaine de Suzette, Lisette, Martine à l'école et Girl. Elles ont des jouets de petites filles. Leur poupée préférée s'appelle Barbie.
C'est une fille. Elle est chez le dentiste. Elle attend son tour. Quand la porte s'ouvre, elle dit bonjour gentiment. Ensuite, elle souffre gentiment. Elle se fait dévitaliser une dent. Elle a les larmes qui lui viennent au bord des yeux. Elle a le droit de pleurer. C'est une fille. À la fin, elle remercie gentiment. C'est une fille.
Les petites filles naissent dans les roses.
Les petites filles sont des êtres doux et gracieux.
Les petites filles préparent un spectacle de fin d'année. Elles apprennent à chanter ensemble et à danser. Elles confectionnent leurs costumes elles-mêmes avec leur maman. Elles vivent dans le bruit du papier crépon. Elles sont des jonquilles, des marguerites. Elles sont des libellules, des papillons. Elles sont la nature qui s'éveille. Elles ont des antennes, des trompes. Elles ont des ailes. Elles imitent les gestes de l'institutrice. Elles apprennent par cœur une chorégraphie.
Les petites filles naissent dans les roses.
Elles sont coquettes sans être vaniteuses.
Plus tard, elles feront des régimes. Perdre 3 kilos avant les fêtes, perdre 3 kilos avant l'été, perdre 3 kilos pour la rentrée.
Les petites filles naissent dans les roses.
Les petites filles sont soumises et dévouées.
Les petites filles apprennent à lire. Maman prépare le repas. Maman coud un pantalon. Maman lave bébé. Papa roule vite dans sa grosse automobile. Papa part travailler. Papa est fort.
La petite fille a l'idée qu'il suffit de bien ranger sa chambre, de débarrasser la table gentiment pour être aimée.
La petite fille deviendra grande. Elle sera la reine du foyer.
Si la petite fille résiste, accentuer la contrainte.
Se moquer de la petite fille qui veut jouer au loup.
Gronder la petite fille qui fait tomber sa poupée.
Qui salit sa robe.
Qui rit vulgairement.
Qui parle fort.
Qui n'est pas d'accord.
Punir la petite fille.
Dire à la petite fille, allez, rentre à la maison. Phrase millénaire pour les enfants, les femmes et les chiens.
La bonne éducation pour les petites filles consiste à ne pas hurler comme une marchande de poissons. À dire « zut » ou « merde crudi » et à ne pas traîner dans la rue.
Quand elles ont bien compris ce qu'est être féminine, les filles accentuent leur côté « fille, fille ». Quand un professeur de sciences naturelles invite la classe à disséquer une grenouille, certaines filles, pour attirer l'attention, disent qu'elles ne sont pas capables de tenir un scalpel. Elles pensent que les filles sont plus sensibles que les garçons, elles sont prêtes de s'évanouir. Les garçons, au contraire, se portent volontaires pour une dissection immédiate. Ils pensent que les garçons doivent apporter la preuve de leur virilité.
Les petites filles naissent dans les roses.
Et les petites filles sont fragiles. Oh,
les jeunes filles, encore plus.
Ah, une fille n'a pas le droit de sortir le soir. Ah, ça, c'est dangereux pour une fille.
Une fille risque plus qu'un garçon.
Ah, les frères et les pères sont sévères avec les filles.
Oui. Une fille doit faire attention.
Et les petites filles naissent dans les roses.
Oh, les petites filles sont douces et sensibles.
Si les femmes dirigeaient, il n'y aurait pas de guerre. Hein?
Les petites filles ne se battent pas. Si elles le font, elles se crêpent le chignon.
Et les petites filles sont des crâneuses, des chochottes et des froussardes.
Les filles sont chippies.
Les filles sont bêtes.
Les filles sont dociles.
Les filles sont mesquines.
Les filles sont gnangnan.
Les filles sont hystériques.
Les filles ne sont pas faites pour la politique.
Les filles peuvent être sainte vierge, putain ou mère de famille.
Non.
La première grande manifestation. féministe qui s'exerce à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Cette marche internationale, qui suit des manifestations semblables, se déroule aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne.
On avait lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. On avait ouvert le premier centre de planning familial en 61. On regardait du côté des États-Unis et de la lutte des classes. On voulait lutter contre l'oppression des femmes.
Elle luttait pour la fin de l'esclavage ménager, l'accès à la contraception, l'avortement libre et gratuit.
Elles avaient obtenu, 1944, le droit de vote et d'éligibilité.
1946, le principe de l'égalité homme-femme dans la Constitution.
1965, le droit d'avoir un compte, de disposer de leur salaire comme elles le désirent, le droit de travailler sans l'autorisation du mari.
Debré, nous ne te ferons plus d'enfants.
Non, 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 pour faire de la chair à canon. Non, 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 ça abrutira la production. Oh non, et vive la contraception. Plus jamais ne nous marions. Non, 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 ne restons plus à la maison. Non, 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 leur amour c'est comme une prison. Oh non, faisons des fêtes et des chansons.
1967, le droit à la contraception. Vive la pilule!
1970, fini l'autorité paternelle et vive l'autorité parentale!
1972, loi sur le principe à travail égal, ça l'heure égale, à travail égal, ça l'heure égale, à travail égal, ça l'heure égale.
1975, loi Veil autorisant l'interruption volontaire de grossesse.
Autrement dit, IVG, avortement.
Elle luttait pour qu'une fille en mini-jupe ne soit pas considérée comme celle qui provoque. Une allumeuse, une moins que rien qui cherche le viol. Pour qu'une fille libérée ne soit plus une coupable, une salope, une Marie-Couche-Tola.
Elle luttait pour la liberté. La liberté d'étudier, de travailler, d'avoir ou non des enfants. Elle luttait pour pouvoir s'affranchir du sexe masculin, du père, du mari.
Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure, les hommes. Ils se racontent leur guéguerre, leur nostalgie de militaire, une alarme à la paupière. Les hommes ont leur petit cèpe dans leur culotte, leur petit périscope sous la flotte, ont le bâton ou la carotte, les hommes. Et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches, les hommes.
J'aime les femmes comme des fous, c'est si pervers et c'est si doux, enfin quoi, c'est pas comme nous, les hommes. J'aime les femmes à la folie, passives, muettes et jolies, de préférence dans le lit des hommes. Au babiroum ou au boudoir, à la tortore ou au trottoir, j'aime les femmes sans espoir, les hommes. Prostituées ou pénélopes, apprivoisées ou antilopes, toutes les femmes sont des salopes pour les hommes.
Excusez-moi, mais je me gratte ma pauvre peau de phallocrate dans la région de la prostate des hommes. Excusez-moi, mais je me tire sans un regret, sans un soupir de votre mafia, votre empire des hommes. À chacun sa révolution, aurait seulement des compagnons qui partagent l'indignation d'un homme.
À chacun sa révolution, aurait seulement des compagnons qui partagent l'indignation d'un homme.
C'était l'horreur d'attendre ces règles. On attendait, et on voyait qu'on n'était pas réglé. C'était épouvantable, on se disait, ça y est, t'es enceinte à tous les coups. Je me souviens avoir passé des nuits blanches, des journées à aller 15 fois par jour aux toilettes pour voir si j'avais pas mes règles.
J'avais acquis un savoir vague sur les moyens à utiliser. L'aiguille à tricoter, les queues de persil, les injonctions d'eau savonneuse, l'équitation.
J'essayais de déclencher une hémorragie. J'avais acheté 3 ou 4 boîtes d'aspirine pour déclencher une hémorragie.
Je sautais. Je me rappelle, on faisait un tas de trucs. C'était fou. Je sautais, mais ça faisait rien. Quand c'était bien accroché, c'était bien accroché.
La meilleure solution consistait à trouver un médecin qui accepte de pratiquer un avortement clandestin ou une femme au joli nom de faiseuse d'orange. L'un et l'autre très coûteux, mais ils prenaient des risques énormes. Ils risquaient la prison. J'ai trouvé un médecin. On sonnait en bas de chez lui et il disait « C'est pourquoi ?» Alors on parlait tout doucement, parce qu'on avait peur. « Vous savez, j'ai un rendez-vous avec vous. »
Moi, aucun médecin n'a voulu m'aider. J'ai trouvé une faiseuse d'ange. Comme des milliers de filles, j'ai monté un escalier, frappé à une porte derrière laquelle il y avait une femme à qui j'allais abandonner mon sexe et mon ventre. Elle ouvre la porte en tablier et en pantoufle à pois, un torchon à la main. C'est pourquoi, mademoiselle ? C'est pourquoi ? C'est pour le faire passer ?
Les femmes mettaient des sondes et commençaient à saigner. Elles venaient à l'hôpital. C'est seulement quand elles étaient à bout de sang, à bout de force, qu'elles avaient droit au curetage qui leur sauvait la vie. Souvent sans anesthésie, comme pour les punir.
Je n'ai pas pipé mot. Le lendemain, je retournais travailler. C'était impossible d'en parler à quelqu'un. Même entre femmes, on n'en parlait pas, parce qu'on savait qu'on faisait mal.
À l'hôpital, les bonnes sœurs encore nettes disaient « Ne les regardez pas, ne les regardez pas, ce sont de mauvaises femmes. » Les femmes étaient parquées dans une salle commune. Elles n'avaient pas le droit à des boxes. Je vous parle de 1961, à l'Hôtel Dieu à Lyon. Elles n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes avec les femmes qui avaient accouché. Elles avaient un seau dans la salle commune. Elles étaient bannies du reste de l'hôpital. Les femmes mouraient des avortements clandestins. Elles mouraient de septicémie, de tétanos. La famille ne disait rien. Il y avait un tel tabou, une telle honte.
En avril 71, 343 femmes brisent la loi du silence. Elles déclarent dans le manifeste du Nouvel Observateur « J'ai avorté ».
On les appellera les 343 salopes. Mais qui a engrossé les 343 salopes ?
La loi Veil de janvier 75 autorise l'interruption volontaire de grossesse.
En l'année 75, une loi du Parlement permettait aux Françaises d'avorter librement. Adieu donc la gamine, clématronne du quartier, sur la table de cuisine, charcutait sans pitié. Mais tous les gens honnêtes, les sujets bien pensants, soulèvent les tempêtes en leurs poings menaçants. Ces mêmes gens de bien qui vous traiteront plus tard la mère de putain et le fils de bâtard. En l'année 75, une loi du Parlement permettait aux Françaises d'avorter librement. Adieu donc la gamine, clématronne du quartier, sur la table de cuisine, charcutait sans pitié.
Qu'est-ce que tu faisais encore au téléphone ?
Je parlais avec ma sœur.
Vous parlez de moi, hein ? Je veux plus que tu l'appelles.
Bah, c'est ma sœur. Je peux bien lui parler.
Ça dure des heures. Ta famille te monte contre moi, je ne veux plus les voir ici.
Mais il devait venir...
Je veux plus les voir ici, je suis chez moi. T'as pas repassé ma chemise correctement.
Je vais le refaire.
T'es nul, t'es bonne à rien. Et puis pourquoi les momies pleurent? Fais-les taire.
Mais c'est de ta faute. Tu cries tout le temps.
Quoi? C'est de ma faute? Quoi? C'est de ma faute? Répète un peu. Ah. Oh, pardon. Pardonne-moi, je le refais plus, je sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi tu l'as regardé? Hein?
Je l'ai pas regardé.
Quoi, tu l'as pas regardé? Mens pas.
Je l'ai pas regardé.
Si, tu mens encore.
Non, j'ai regardé son écharpe.
Ah, tu vois, tu mentais.
Aïe.
Bon, maintenant vous allez inspirer tout de suite. N'attendez pas, faites comme moi.
Oui, madame, oui. Je suis calme, oui, madame, oui. La respiration du petit chien.
Oui, la respiration du petit chien, c'est très bien. Et ne vous moquez pas de la respiration du petit chien. C'était les débuts de l'accouchement sans douleur. Bon, c'était pas sans douleur du tout, mais...
Oh non, c'était pas sans douleur du tout.
Mais la préparation à l'accouchement, c'était tout de même mieux que de s'entendre dire par les bonnes sœurs en cornette. Tu criais pas tant quand tu l'as fabriqué, hein? Tu criais pas tant, hein? Ah, ça, c'était prendre en compte la douleur des femmes. Aujourd'hui, c'est la péridurale.
Péridurale pour tout le monde. Qui veut une péridurale? Péridurale pour toutes. Péridurale, c'est médical propre, organisé, sécurisé. C'est l'hôpital, pas de cri, pas de cérémonie.
Ah, pas de cérémonie. Ah, ça me rappelle quelque chose. Pas de cérémonie. Mais comme le jour où je suis devenue femme. Non, mais tout de même, j'avais mes règles. Eh ben, je sais pas, moi, je m'imaginais qu'il y aurait une fête, genre première communion, un moment solennel. Bon, d'accord. J'étais un peu exaltée.
Oui.
J'étais là, les bras serrés, l'air grave. Je regardais pleine d'impatience mon père, ma mère, mes sœurs, ma famille, quoi. Et je me disais, non mais qu'est-ce qu'ils attendent pour faire une fête? Non mais à bien y réfléchir, ça serait normal de faire une fête quand une petite fille devient femme?
Ouais.
Eh ben non. Alors autour de moi, tout le monde faisait comme si rien ne s'était passé. Personne ne me regardait, personne ne me faisait le plus petit plaisir. Et à table, eh ben il n'y a même pas eu de gâteau.
Ah si, une tarte. Imaginez un peu la situation. Vous avez 12-13 ans, vous venez d'avoir vos règles. Bon, vous savez ce que c'est. Grâce à vos copines, vous prenez une grande respiration, votre cœur bat, vous êtes affolé par l'ampleur de la révélation. Maman, je crois que j'ai mes règles.
Tiens!
Aïe!
C'est la tradition, ma chérie.
Des années à vous en remettre. Des années à porter la honte du sang, le poids du péché d'Ève. Des années pour oublier. Ah, sans compter que certains pères refusent dorénavant de vous prendre dans leurs bras, alors que vous n'êtes encore qu'une toute petite fille.
À partir d'aujourd'hui, tu es une femme. Garde les jambes serrées quand tu t'assieds et méfie-toi des garçons.
Oh, les garçons. Oh, les garçons.
Bon, alors, écoute-moi bien, Chantal. Tu diras pas « oui, monsieur », mais « oui, monsieur » à papa, d'accord ?
D'accord.
Voilà. Et puis fais comme si tu t'y connaissais un peu en peinture, en musique, enfin tous ces trucs-là. Je sais pas, moi. Tiens, Michel-Ange, parle de Michel-Ange. C'est bien Michel-Ange, d'accord ?
D'accord.
Voilà. Et puis, dis que ton père est contremaître. Oui, c'est mieux qu'ouvrier, d'accord ?
Contremaître, bon, ben, d'accord.
Voilà. Et puis fais aussi semblant de t'y connaître un peu en vin, en cuisine. Ah oui, papa est très gastronome. Il commande toujours une glace en dessert. Alors, commande une orange givrée, d'accord ?
Une orange givrée, d'accord.
Voilà. Et puis tu sais, maman a des idées un peu arriérées sur le mariage. Eh ben, de son temps, on n'aurait pas admis certaines choses. Alors si jamais elle te fait des allusions bizarres à propos de, je ne sais pas moi, de robe blanche ou de machin comme ça, eh ben fais gaffe, d'accord?
D'accord.
Non mais tu saisis, hein?
Oui.
Bon alors attention, les voilà. Alors tu commandes une orange givrée et tu parles de Michel-Ange. Mais tu sais qui c'est au moins?
Oui. C'est un peintre de la Renaissance.
Il fleurissait au XVIe siècle. Peintre, sculpteur, architecte et poète. Nul n'égala sa puissance de conception et ses œuvres surprennent par leur diversité autant que par leur caractère grandiose et sublime. On lui doit la coupole de Saint-Pierre de Rome, le tombeau de David, les fresques de la chapelle Sixtine, la création du monde et le jugement dernier. Bon, les lève-toi, ils arrivent.
Mais je suis déjà debout.
Mais tais-toi. Moment. Moment, je te présente Chantal. Chantal, je te présente Moment. Popa, Chantal, Chantal, Popa.
Bonjour.
Le mariage. Mais attention, continuez à faire attention. Et oui.
Et sinon, maternité, maternité.
Allez, ma petite dame, il sera bientôt là. Courage, respirez, bloquez, poussez, stop, 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 stop.
Faire attention. L'expression magique, faire attention. Et encore fallait-il pouvoir faire attention, hein, parce que jusqu'en 67, pas de contraception médicale autorisée.
Grand-mère, elle a eu 6 enfants. Bon, les 3 premiers, d'accord. Mm-hmm. Mais les 3 autres, c'était des accidents. Bon, et des accidents au sein du mariage, certes, mais des accidents quand même. Le premier en 1934, le deuxième en 1936, le troisième en 1939, le numéro 4 en 42, le numéro 5 en 45 et le numéro 6 en 47. Non, mais elle voulait que ça s'arrête, mais elle avait pas de contraception.
Ah. Bah si. Elle connaissait la méthode Ogino. Abstinence totale pendant le risque d'ovulation, pendant les règles, entre le 10e et le 17e jour, après le début des règles. Encore fallait-il que la femme soit réglée comme du papier à musique et que monsieur veuille bien patienter pendant les 7 jours fatidiques.
Parole de grand-mère. Si vous êtes marié à un gars qui veut pas se gêner, vous avez beau faire, mais vous êtes foutu. Maternité, maternité, maternité. Et 3e mois, et 4e mois, et 5e mois. Et les seins qui gonflent, et le ventre qui gonfle. Et en avant la gymnastique préparatoire et une bonne gestation. Et 1, et 2, et 3, et 4, flexion. Et 1, et 2, et 3, et 4, flexion.
Je peux respirer, j'ai la tête qui tourne, je peux plus respirer, je vais faire un apoplexie.
Non, ma petite dame, mais non.
C'est une nullipare. Vous êtes une nullipare.
Quoi?
C'est votre premier accouchement, vous êtes nullipare.
Nullipare, mais quel mot affreux. Un mélange de nullité et de salopard.
Oh, une erreur de la langue française.
Ça va, c'est juste médical.
Ah, à contrario, il faudra inventer des mots doux, des mots sympathiques pour parler du sexe de la femme.
C'est vrai, quand vous êtes un petit garçon, votre mère, elle vous parle de votre zizi, de votre bistouquette, de votre quéquette. Mais quand vous êtes une fille, rien, pas un mot.
Un motus et bouche cousue, ne pas en parler. D'ailleurs... Freud l'a dit, hein, le sexe de la femme, c'est une absence de sexe.
Hein.
Pour ma mère, on était faites comme des poupées, c'est-à-dire on finissait là, sous la taille. Un exemple, pour les fesses, elle disait le derrière. Et pour le devant, le derrière du devant. Bizarre, non?
C'est le contraire, non?
Je sais pas.
Oui, enfin bref. C'est que le sexe, c'était un petit peu la sexualité. Le plaisir.
Le plaisir.
Et ça, madame, avant l'arrivée de la pilule, on n'en parle pas, c'est péché.
Pilule bleue, pilule rose, pilule bleue, pilule rose. La promesse de nuit d'amour sans risque de procréation. De nuit d'amour folle et frivole, insouciante et légère, qu'aucune crainte ni retenue ne viendra jamais troubler. Pilule bleue, pilule rose, pilule bleue, pilule rose. Mardi, mercredi, vendredi. Mardi, mercredi, vendredi. Oh merde, je l'ai oublié! Jusqu'au jour où on décide de l'arrêter.
Le miracle de la pilule. Désirer un enfant avant même de le concevoir.
Allez, ma petite dame, il arrive. Alors respirez, poussez, mais ne poussez pas de la gorge. Je vous épouche comme une pivoine, poussez d'en bas. Poussez, stop. Allez, on y va. Poussez, je vois la tête, oui, les épaules, oui, il est né.
C'est un garçon?
Non.
Bah, qu'est-ce que c'est?
Ségolène Royal annonce sa candidature aux élections présidentielles. Réaction des pointures du parti.
Mais, qui va garder les enfants?
Chère Ségolène, l'élection présidentielle n'est pas un concours de beauté.
Tout ce qui a trait au pouvoir est encore perçu comme naturel pour les hommes.
Oui, normal. Oui, exceptionnel pour les femmes.
On est militante quand même.
Oui, une fois que les enfants sont élevés. Oui.
Enfin, on est élu maire. Conseillère municipale, conseillère régionale.
De plus en plus depuis la loi sur la parité de 1999, ça vous rappelle quelque chose?
Ah oui, on vous laisse les petits postes.
Oui, et pour les postes de ministre, de député, Tintin.
Ah mais je vois pas pourquoi on céderait nos places aux femmes.
Non mais on va pas abandonner notre circonscription comme ça.
Oui, et puis pour les législatives, le parti payera une amende, et voilà.
Une liste électorale d'aujourd'hui, une femme, un homme, une femme.
Shabadabada, shabadabada.
Un homme, une femme. Une femme, un homme.
Shabadabada, shabadabada.
Un homme, une femme.
Shabadabadam, shabadabadam. La la la, shabadabadam, shabadabadam. La la la, la la la, shabadabadam. La 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 la.
Les travaux ménagers souffrent aujourd'hui chez beaucoup d'un discrédit que rien ne justifie. Quels que soient ses dons intellectuels ou artistiques, une femme ne peut faire plus. Elle ne peut faire mieux que fonder un foyer.
Aussi fera-t-elle sagement d'y demeurer si la nécessité ne l'oblige pas à aller travailler au dehors. N'allez pas sacrifier le vrai bonheur à la recherche d'une jouissance que le snobisme surtout rend désirable. Mesdames, restez chez vous, et vous aurez choisi la meilleure part.
C'était le manuel de la femme au foyer par Madame Foulon Lefranc, 1946.
Madame, une bonne table retiendra votre mari, qui aimera sans confortable les petits plats bien servis. Si l'amour nous électrise, ce n'est que de temps en temps, tandis que la gourmandise, ça revient à chaque instant. Avec les produits pluie d'or, c'est de l'argent qu'on vous donne. Avec le timbre pluie d'or, c'est des cadeaux qui foisonnent. N'hésitez pas un seul instant, allez vite chez votre marchand, demandez-lui ce trésor, le fameux timbre pluie d'or.
Moi, je faisais jamais rien à la maison. J'arrivais, je prenais mon journal, je mettais les deux pieds sous la table et j'attendais que ma femme ait préparé à manger. Et pourtant, on avait les mêmes horaires de travail à l'usine. Mais j'avais droit à plus de loisirs. Je faisais beaucoup de sport dans une société de gymnastique, tandis que ma femme, elle rentrait à la maison pour s'occuper des gamins, faire à manger. On élevait nos garçons comme j'avais été élevé, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas grand-chose à la maison. Tout retombait sur les épaules de ma fille aînée. L'aînée, c'était l'exemple, c'était celle qui devait s'occuper des petits, c'était la deuxième maman.
Moi, mes filles, elles auraient aimé que ma femme reste à la maison. Mais elle, elle voulait travailler. Elle aurait rêvé d'être esthéticienne. Pour son père, c'était l'antichambre du trottoir. Enfin bref, elle ne voulait pas rester à la maison, et moi, ben, j'étais d'accord. Mais mes filles, elles lui disaient « Oh maman, qu'est-ce que c'est bien quand on sort de l'école et qu'on doit derrière la vitre nous attendre pour le goûter ?» Femmes, méfiez-vous de vos enfants, et même de vos filles.
Toute vraie maman n'a qu'un souci, c'est la santé de ses chers petits. Dans ce but, elle les nourrit à la bonne margarine, a dit la bonne, bonne margarine a dit. Voilà pour les petits, la source de vitamines. Oui, oui, c'est moi qui vous le dis. La margarine a dit, leur donnera joyeuse mine. Tous vos enfants seront grands, bien portants, grâce aux merveilleuses vitamines. Vitamine A et vitamine D que fournit la margarine a dit. Bonne, bonne margarine a dit. À tous grands et petits, donne la santé et la vie.
L'électroménager est arrivé.
Molinex, libère la femme.
Ces deux-là, elles ont tout le temps de bavasser. Elles mettent si peu de temps à faire la cuisine grâce à leur super nouvelle cocotte, Seb.
Mais oui, elle sort. Elle a enfin des loisirs depuis qu'elle a son tornado.
L'électroménager, c'est venu tout doucement à partir des années 60. Les filles de la ville, elles étaient partantes, mais celles de la vieille école, elles trouvaient tout ça ridicule. Du moment que c'était fait par une machine, c'était pas bon.
Les cocottes minutes, j'ai peur que ça pète.
Les machines à laver, c'était des trucs énormes en forme de tonneau avec un couvercle sur le dessus. Ça faisait un bruit terrible. Mais on a fini par s'y habituer. Moi, j'ai attendu les années 70 pour avoir ma petite calore en plastique bleu. Oh, ça représentait vraiment un gain de temps formidable, une avancée fantastique.
Le linge à trier pour la laverie, un bouton de chemise à recoudre, rendez-vous chez le pédiatre. Il n'y a plus de sucre. L'inventaire qui n'a jamais ému ni fait rire personne. Ah, Sisyphe et son rocher qu'il remonte sans cesse. Ah, ça au moins, quelle gueule! Un homme sur une montagne qui se découpe dans le ciel. Une femme dans sa cuisine jetant 365 fois par an du beurre dans la poêle. Ni beau ni absurde. La vie, Julie. Et puis quoi? Bah, c'est que tu ne sais pas t'organiser. Organiser, le beau verbe à l'usage des femmes. Tous les magazines regorgent de conseils. Gagner du temps, faites ci et ça. Ma belle-mère, si j'étais vous pour aller plus vite, des trucs en réalité pour se farcir le plus de boulot possible en un minimum de temps, sans douleur ni déprime, parce que ça gênerait les autres autour. Et moi aussi, j'y ai cru aux pense-bêtes des courses, aux réserves dans le placard, le lapin congelé pour les visiteurs impromptus, la bouteille de vinaigrette toute préparée, les bols en position dès le soir pour le petit déjeuner du lendemain. On n'en finit pas de s'avancer, hein. Le noyau dur des tâches domestiques, c'est-à-dire vaisselle, courses, ménage, soins aux enfants, repose pour 80% de l'ensemble sur les femmes. Bon, écoutez, non mais ça va pas du tout. En 10 ans, les hommes n'ont ajouté que 10 minutes supplémentaires quotidiennes aux travaux ménagers. Bon, allez, encore un petit effort.
Ouais, 10 minutes de plus en 10 ans, c'est déjà pas si mal. Bon, là, je fais une demi-dalle. Et je souffle un peu. Bon, je fais une autre demi-dalle et je me repose tranquille. Eh ben, bon an, mal an. Je devrais bientôt y arriver à mes 10 minutes supplémentaires quotidiennes.
Bon, ça y est, t'as fini ?
Oui, oui, voilà.
Bon, alors, s'il te plaît, maintenant, tu vides le seau, tu le rinces et tu mets le tout dans le placard.
Oh, ben, parce qu'il faut rincer le seau.
Oh, mais oui, mais c'est dégueulasse, sinon ça croupit.
Non, oh,
tu fais tout à moitié, tu m'énerves.
Que c'est compliqué.
C'est le SBAM, sourire, bonjour, au revoir, merci. Sourire, bonjour, au revoir, merci.
Sourire, bonjour, au revoir, merci.
Viens aux caisses, on est chronométré. Il voit combien d'articles on passe à la minute. Je fais 19 articles à la minute. J'ai eu le droit à ma photo sur le panneau d'affichage.
Bonjour,
au revoir,
bonjour,
merci.
Bonjour. Sourire,
bonjour,
au revoir,
sourire,
merci.
Bonjour,
bonjour,
au revoir,
merci.
80% des travailleurs pauvres en France sont des travailleuses.
80% des Français qui gagnent moins que le SMIC sont des Françaises.
80% des employés à temps partiel sont des travailleuses.
Plus de la moitié souhaiteraient travailler à temps plein.
Sourire, bonjour, au revoir, merci.
C'est un boulot qui rapporte peu, un boulot de femme.
Sourire, bonjour, au revoir, merci.
Les horaires varient d'une semaine à l'autre. On dit que le temps partiel, c'est bien pour les femmes. Qu'elles peuvent s'occuper de leurs enfants, et les samedis, et les horaires de 17h à 22h. Et vous savez ce qu'on entend ?
Tu vois, il faudra bien travailler à l'école, sinon tu finiras comme la dame.
Nous nous sommes retrouvés dans les mots et les gestes de toutes les femmes. Chacune est unique, chacune est toutes les autres. Chacune détient une part de nous-mêmes, chacune détient une part de vous-même.
Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la Reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel.
où l'enragée Louise Michel, vivre encore colombe ou rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien, ne retrépas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Bulliolidée. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan. Pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labbé, ou Lou Andréa Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonhomme et en psychose, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loïc Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire. La Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la très sage Simone de Beauvoir. Une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or. La Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes-Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille. Sylvia Bataille, Anna de Noailles, Camarade Alexandra Kollontai. Et les agitatrices de bouche, brandissant l'espoir et la gouge, aux lames de bouge, aux avares rouges, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame Donia ou Miss Compariotis, ou les Dacis, Angela et Bette Davis. Du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès, et l'empoisonneuse Boccia Lucrèce. Enfin, j'ai pour être sincère du goût pour les belles arrangères, Yvette Gilbert, Claire Bredecher, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule, ou que les anges me fassent la fête. Permettez une ultime requête, faites-la renaître votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en Malka Malika ou Marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en gourgandine. Tiens, en Juliette nous rédine.
Ainsi se termine notre émission qui était consacrée à la rediffusion, après remontage, d'une émission Bistantelac 722 du 30 octobre 2006 en direct. Il s'agissait d'une interprétation en direct de la pièce « Histoire de femme » par la compagnie L'Atelier du Désordre, pièce mise en scène par Mo Martin. Vous venez d'entendre en illustration musicale les rimes féminines de Pierre Philippe sur une musique de Juliette Noureddine interprétée par Juliette. Et nous terminerons cette émission en chanson avec Vanina, une chanson de Véronique Pestel dans l'interprétation de Francesca Solville.
Vanina s'en va, Vanina s'en va de la vie comme vous et moi, va, comme vous et moi quand c'est fini, un jour ou l'autre, d'un jour à l'autre ou lentement l'un derrière l'autre, chacun regagne son néant. Vanina s'en va, Vanina s'en va, c'est pas grave, la bien vécue va. Son grand siècle de bout en bout, de guerre en paix, de droite à gauche, à rien du tout. Premier Jaurès, premier amour, ambulancière de nuit, de jour, pour ne plus entendre là-bas le glas qui sonne. Les années 20 lui font l'humour d'une insolence à cheveux courts. Le droit de vote est à deux pas de Charleston. Alors les 30 font la java pour la retourner comme un bas. Mais elle choisit Colette et Ri de Monterland. Quand elle n'est pas au syndicat, Garbeau la trouble au cinéma. Pour faire une femme, évidemment, c'est un peu lent. Vanina s'en va, Vanina s'en va de la vie comme vous et moi, va, comme vous et moi quand c'est fini, un jour ou l'autre, d'un jour à l'autre ou lentement l'un derrière l'autre, chacun regagne son néant. Vanina s'en va, c'est pas grave, l'a bien vécu, va, son grand siècle de bout en bout, de guerre en paix, de droite à gauche, rien du tout. L'été 36 est populaire, mais un congé chez les hivers brise son rêve et c'est la grève où vient s'échouer son désespoir de plein hiver quand l'an 40 se perd en guerre et qu'il faut bien que nage ou crève les bafoués. Alors en dépit des képis, la voilà qui passe au maquis sur son vélo des lettres lentes de menaces jusqu'à ce jour de Normandie qui la débarque bien en vie sur le quai des années 50, le temps passe. Vanina s'en va, Vanina s'en va, c'est pas grave, l'a bien vécu, va. Son grand siècle de bout en bout, de guerre en paix, de droite à gauche, rien du tout. Quinquagénaire à Saint-Germain, quand déchante les lendemains, parce que l'Empire français salope les droits de l'homme. Mais un printemps estudiantin l'a fait rejouir de son latin chez les salopes à la Sorbonne. Et c'est à l'art d'être grand-mère qu'elle ira frotter ses chimères chez les cathos pour être utile à quelque chose. La grande chose humanitaire qui la porte nonagénaire à croire encore aux justes causes. Vanina s'en va, Vanina s'en va de la vie comme vous et moi, va, comme vous et moi quand c'est fini, un jour ou l'autre, d'un jour à l'autre ou lentement l'un derrière l'autre, chacun regagne son néant. Vanina s'en va, Vanina s'en va, c'est pas grave, l'a bien vécu, va, son grand siècle de bout en bout, de guerre en paix, de droite à gauche, debout.
Thank you.